C'est une véritable légende de l'Internet et il est français. L'ingénieur Louis Pouzin, 83 ans, est à l'origine dans les années 70 de Cyclades, le premier réseau permettant de connecter des ordinateurs. Mais faute de soutien politique, le projet s'est éteint en France et les Américains plus visionnaires s'en sont emparés pour créer un protocole sur lequel Internet fonctionne toujours. Aujourd'hui, avec des connexions de plus en plus nombreuses, la sécurité des échanges n'est plus toujours assurée. C'est donc le dossier de notre tête au carré cet après-midi avec Louis Pouzin et le journaliste blogueur Jean-Marc Manac pour évoquer le passé, certes, mais surtout le présent et le futur du net. Toutes vos questions, en particulier sur le domaine de la sécurité, dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la découverte à Cuba d'une nouvelle souche très agressive du VIH. Elle provoquerait chez les personnes infectées une charge virale plus importante et accélérerait le développement du virus de sida. Mais cette information, reprise dans le monde entier, est à prendre avec beaucoup de précautions, comme nous le dira la virologiste Christine Rousiou. Violaine Balay réalise cette nouvelle Tête au carré qui a été préparée par François Mercier, Fanny Cohen-Moreau et Anne-Cécile Perrin, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Louis Pouzin et Jean-Marc Manac, bonjour.
Bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Louis Pouzin, ravi de vous accueillir. Vous êtes une figure de légende de l'Internet et pourtant vous n'avez pas inventé l'Internet. Vous avez mis au point dans les années 70 un réseau précurseur de la toile. Et malheureusement, je disais tout à l'heure dans la présentation, les décideurs politiques français ont arrêté les recherches à l'époque. Est-ce que ça reste un terrible raté pour vous ?
Oh, pour moi non, parce que c'était un projet magnifique. D'ailleurs, j'ai considérablement appris de choses, j'avais une équipe fantastique. Donc, comme tout projet, ça a une fin, hein. Donc ça ne m'a pas surpris. Ouais. Ça aurait été mieux que ça continue quelques années de plus. Mais c'est surtout pour l'Europe que c'était une catastrophe. Hein. Parce qu'on avait tous les éléments pour être... Pas la France elle-même, on n'avait pas les moyens, je crois. Mais au niveau européen, on avait parfaitement la capacité d'être un leader mondial.
Ouais. Il y a eu un manque de vision terrible quand même, hein, de la part des Français.
Bien sûr, on avait ça, manque de vision, je dirais, ça c'est un problème culturel. C'est parce que les classes politiques sont d'ailleurs toujours au moins 10 ans de retard sur la réalité. Quoi.
Ouais, mais les Américains, eux, ont compris, hein, évidemment.
Ils sont mieux organisés pour ça.
Hein. Ouais. Après, c'est un manque de vision à long terme. Mais à court terme, ils ont privilégié le Minitel. Et le Minitel, ça a été énormément d'argent pour France Télécom, énormément d'argent pour les industriels français. Et après, certains pensent que même Apple se serait inspiré du Minitel pour son design. Donc, mais c'est clair qu'on a raté le coche.
Jean-Marc Manac, Internet, aujourd'hui, ce sont des milliards de connexions échangées. La question de la sécurité, c'est vraiment devenu crucial aujourd'hui ?
Ça a toujours été crucial. C'est juste qu'il a fallu des années avant que Microsoft en prenne conscience au début des années 2000 et qu'il a fallu attendre les révélations Snowden pour qu'enfin il y ait un débat public aussi bien du côté des industriels que du côté des politiques et de l'opinion publique pour comprendre que oui, c'est fondamental.
On viendra donc bien sûr ensemble sur la création d'Internet et puis on ira faire un tour donc au pays des hackers avec tous les messages des auditeurs qui arrivent en ce moment sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, la découverte à Cuba d'une nouvelle souche du virus du sida. Cette variante serait extrêmement virulente et certains pays comme le Canada ou la Floride s'inquiéteraient déjà d'une potentielle épidémie à venir. Ces résultats viennent d'une étude parue dans la revue scientifique Biomédecine qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Louvain en Belgique et de l'Institut de médecine tropicale de la Havane. Christine Rousiou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur cette information qui a été reprise dans le monde entier. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes et virologiste à l'hôpital Necker. Est-ce que cette variante du virus est vraiment inquiétante ?
Pour ma part, non. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de cet article. En fait, cette souche, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle existe depuis 1980 à Cuba. Ce qui est intéressant, c'est la question qui est posée, les hypothèses qui sont soulevées. Mais pas plus, quoi. Il faut quand même faire attention à la diffusion scientifique. Et je suis toujours un petit peu étonnée de la reprise avec beaucoup de détails assez faux. En fait, l'étude montre que des patients infectés par cette souche CRF19, donc un virus recombinant, irait plus vite vers aurait un risque de développer plus vite la maladie. Ils ont été mis sous traitement, le traitement a bien marché, donc on est, c'est vrai, continuellement dans l'attente de se dire, est-ce que c'est comme l'épidémie de grippe, où il y a une multitude de virus VIH, et bien il y a une multitude de virus grippaux. Et si dans une culture, vous mettez un virus A et un virus B, bien à la sortie, vous pouvez voir un virus AB qu'on dit recombinant. C'est pareil pour la grippe, c'est pareil pour le VIH. Et on a toujours peur qu'un virus plus virulent émerge. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une épidémie un petit peu particulière. D'abord, à Cuba, il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment, l'épidémie est à un niveau très faible.
Oui. Donc, cette souche n'est présente qu'à Cuba ?
Elle est présente, enfin, cette petite épidémie est présente qu'à Cuba. Mmh. En France, là, moi, j'ai regardé les chiffres qu'on a dans la cohorte ANRS Primo. On a un cas depuis 2007, une seule souche chez RF19. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rare. Donc, je pense qu'il faut absolument rassurer le public. Ce n'est pas une nouvelle épidémie avec un nouveau virus. C'est une étude où on cherche un petit peu de physiopathologie, de virulence de différentes souches. Mmh. C'est en ça que l'information est nouvelle, mais pas le virus lui-même. Et je ne suis même pas sûre que cette souche soit beaucoup plus virulente parce que l'étude me pose des problèmes sur le plan des méthodes épidémiologiques.
Pourquoi ?
Parce que le nombre de patients décrits est 9. Je trouve que refaire toute l'histoire...
9 patients concernés.
Je trouve refaire toute l'histoire sur 9...
On ne parle pas d'une épidémie avec 9 patients.
Non, on ne parle ni d'une épidémie, mais et on cherche à savoir si c'est le bon dénominateur et le bon numérateur quand on cherche à savoir s'il y a une fréquence plus élevée de quelque chose. Mm-hmm. Il faut être juste, point de vue épidémiologique, pour décrire comment on a trouvé le numérateur et comment on a trouvé le dénominateur. Et donc là, j'ai un petit peu des soucis parce que la série est très petite.
Oui. Qu'est-ce qui vous gêne d'autre dans la méthodologie ?
Alors, de fait, quand j'ai discuté avec Madame Van Ham, et effectivement, je lui ai demandé...
Qui est l'une des signataires
Dernière signataire et qui porte l'étude et qui travaille visiblement à la plusieurs publications avec les Cubains. Mmh. Je lui ai demandé... Pourquoi, comment elle pouvait affirmer ça alors que sur les autres types viraux, elle avait aussi quand même des signaux. Et elle me dit, ah ben non, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses épidémiologiquement. Donc voilà, entre scientifiques, on peut avoir des points de vue un petit peu différents. Pour ma part, j'aurais pas eu cette approche et ces analyses de cette façon-là.
Oui.
Une série de 95 patients n'est pas suffisant pour tout décrire. Et parmi ces 95, elle n'en a que 9 qui sont infectés.
Est-ce que dans cette étude, on fait référence à ce qui a précédé, c'est-à-dire à la bibliographie, non, aux autres études scientifiques sur la question ?
C'est là où aussi je trouve qu'il y a des petits manques, c'est que j'ai trouvé plusieurs papiers décrivant bien cette spécificité de l'épidémie à Cuba. C'est vraiment très particulier. D'abord, Cuba, politiquement, évidemment, c'est très différent. De fait, il n'y a pas de circulation, beaucoup de la population, elle reste localisée. Et les chaînes de transmission épidémiologique sont particulières. Donc, ce n'est pas le tout de trouver un virus. Il faut voir s'il a un risque d'émerger ou de faire émerger via une chaîne d'épidémiologie qui veut dire des comportements humains. Hein. C'est beaucoup plus compliqué simplement que la virologie. Et là, on est sur un territoire très particulier où depuis le début, il y a beaucoup de virus recombinants. Donc j'ai trouvé pas mal de papiers qui montrent qu'il y a une épidémiologie moléculaire des virus à Cuba très particulière avec un mélange, une haute diversité. Il y a plein de virus VIH1 en Afrique, il y en a plein. Oui. L'Afrique est vraiment le cœur de toutes ces sources de virus. Mais à Cuba, le mélange, la recombinaison génétique s'est fait de façon un petit peu particulière. Mais cette épidémie n'est pas nouvelle et ce virus n'est pas nouveau. Ce qui serait nouveau et qui est peut-être une vraie piste, c'est que peut-être ce virus est peut-être un petit peu plus agressif.
Quand même.
Peut-être, mais c'est très difficile à démontrer.
Est-ce qu'on a
déjà... Et là, c'est des balbutiements éventuellement.
On a déjà observé par le passé des virus qui avaient cette capacité de développer la maladie plus rapidement que d'autres.
Alors, on a eu des signaux à un moment avec le virus C, qui infecte beaucoup toute l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, parce que l'épidémie s'est étendue tellement facilement en Afrique du Sud, mais là encore... Les chaînes épidémiologiques, les comportements humains, c'est difficile à mettre ça dans un modèle mathématique pour comprendre quelle est la part de l'agressivité du virus et quelle est la part comportementale qui intervient dans une chaîne épidémiologique.
Comment ça émerge une nouvelle souche d'un virus ?
Il faut que, encore une fois, une personne peut se recontaminer. Ça, je pense que les gens n'ont pas cette notion en tête.
Elle-même
VIH1 avec un virus B, par exemple, peut se surcontaminer avec un virus A. Et donc, de fait, elle-même peut produire des virus AB, etc. Et si elle a beaucoup de contacts sexuels ou de rapports non protégés et qu'elle n'est pas traitée, elle peut contaminer d'autres personnes avec ces virus recombinants qui peuvent même infecter. Donc, vous voyez la complexité de l'épidémiologie et de la transmission. C'est ça qui intervient dans tout ça.
Est-ce que vous avez le sentiment que les auteurs de cette étude sont dépassés eux-mêmes par l'ampleur, finalement, de l'écho qui lui est donné ?
Oui, oui. Ils sont très surpris. Ils ne pensaient pas du tout que ça ferait autant de bruit. Elle dit vraiment le mot « noise ». C'est vrai que étudier la virulence d'un virus, ce n'est pas forcément un phénomène mondial qui va arriver.
Il y a un problème de titre sur la
publication.
Il y a
sans doute un problème de titre et de présentation des résultats.
Vous savez, d'interprétation des médias aussi.
Ouais,
chacun a sa part de responsabilité.
Je pense qu'il y a une part de responsabilité. Pour nous, scientifiques, on est toujours un petit peu choqués quand une information comme ça, surtout avec le sida, est tout de suite embarquée et annoncée partout, alors qu'il y a des choses plus importantes qui se passent actuellement.
Une étude d'épidémiologie virologique médiatique pour identifier quels sont les médias qui ont...
Le virus.
Voilà, qui ont grossi le phénomène.
On le fait et croyez-moi, on va qu'aux bonnes émissions.
Christine Rousio, c'était pour ça qu'on souhaitait vous accueillir, pour essayer d'éclairer un petit peu cette amplification, en tout cas, autour de la publication. On vient d'entendre tout à l'heure dans le flash de Maxime Debs qu'une substance anti-VIH avait été découverte et qu'elle pouvait protéger certains singes, justement, de la maladie. Vous connaissez là aussi cette publication ?
Non, je ne suis pas sûre de reconnaître. Il me semble que c'est plutôt un nouveau antirétroviral qui est à diffusion très très longue et qui permettrait le traitement de simplement une fois par mois et qui effectivement aurait l'avantage de protéger les personnes pendant longtemps, au lieu de leur faire prendre les médicaments tous les jours. Donc on a, effectivement, on part tous là, les Français, au grand meeting américain, à la CROI, à la fin de cette semaine, et il va y avoir beaucoup de nouveaux résultats sur, justement, tous ces traitements préventifs de l'infection, en donnant des médicaments à quelqu'un qui s'imbibe de médicaments avant le contact qui pourrait être contaminant, il est protégé. Et donc, effectivement, la recherche de nouvelles molécules à efficacité très très longue est extrêmement intéressante.
Merci beaucoup, Christine Rousio, d'être venue aujourd'hui dans La Tête au Carré. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une première mondiale avec une greffe de cœur sur un prématuré de 33 semaines. Olivier, c'est son nom, est devenu le plus jeune patient greffé du cœur au monde. Des médecins de Phoenix aux États-Unis lui avaient détecté de graves problèmes cardiaques, notamment un ventricule gauche beaucoup plus gros. L'opération qui s'est déroulée le 7 janvier, deux jours après sa naissance seulement, a duré 10 heures. Plus d'un mois plus tard, Olivier est toujours hospitalisé, mais il va très bien. Il pèse 2,8 kg selon les médecins. L'Australie aurait perdu 10% de ses espèces de mammifères terrestres depuis l'arrivée des premiers colons d'Europe et le phénomène ne fait que s'aggraver. Des chercheurs australiens affirment que l'étendue du problème a été largement sous-estimée. Pour eux, le rythme actuellement auquel succombent les mammifères australiens n'a rien de naturel. Ils évoquent une à deux extinctions par décennie. Et puis une nouvelle technique pour observer l'activité cérébrale en temps réel, pour l'instant seulement testée sur les souris. Cette technique utilise une nouvelle molécule appelée Campari pour mieux repérer l'activation des neurones. Le sujet n'a plus besoin d'être immobilisé pour être étudié. Cette avancée permettrait par exemple d'étudier l'activité cérébrale lors des interactions sociales. Et vous pouvez retrouver le gif fascinant du cerveau en activité d'une souris sur la page Facebook de La Tête au Carré. Internet hier et le net du futur, c'est le dossier dans un instant. Don't say that I never moved you. Just because I saw the light before you did. And yes, I know that I never showed you.
the guitar. The people playing make believe. Say, can we get a little higher? Station. Oh, you know the world is a little brighter, and there's no need for conversation. Tell me why.
The Cooks à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Voilà Monsieur Pouzin qui se demandait s'il devait mettre les écouteurs sur ses oreilles. Non, vous allez tout entendre normalement, vous allez okay, voir. Pas d'accord. Besoin de casque. Vous êtes notre invité cet après-midi avec Jean-Marc Manac pour parler d'Internet, ses dérives, son futur, c'est le thème de l'émission. Louis Pouzin, vous êtes ingénieur polytechnicien, président d'Open Route, on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est une solution alternative dans la gestion des noms de domaine. Ça vous tient beaucoup à cœur en ce moment. Et puis Jean-Marc Manac, vous êtes journaliste et blogueur, spécialiste des questions liées à l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la société et la protection de la vie privée. Les auditeurs nous rejoignent, les messages sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Louis Pouzin, 2013, la reine d'Angleterre, vous décore pour votre contribution majeure à la création d'Internet. Vous êtes un des acteurs essentiels et aussi, il faut le dire, malheureusement, l'un des plus mal connus en France. Comment est-ce que vous avez été amené à participer à cette épopée de l'Internet? Revenons un peu sur les faits quand même, c'est intéressant cette histoire.
Je suis arrivé à l'informatique d'abord, presque avant qu'elle existe. La première société où j'ai travaillé s'appelait Compagnie industrielle des téléphones. Alors, on faisait du téléphone, très bien. Mmh. Et à un certain moment, j'ai eu un article dans Le Monde sur le CICOB, qui était l'exposition habituelle annuelle sur le commerce de bureau, mais également le traitement des données. On appelait ça à l'époque.
On parlait pas de data, mais de données, tout simplement.
Il y avait des machines à cartes perforées et il y avait les premiers équipements d'IBM, IBM 650, etc. Ouais. Ça m'a séduit tout de suite. Alors j'ai porté ma candidature chez Bull, j'ai été pris. Et à partir de là, je suis rentré donc dans le mot qui n'existait pas encore, qui était l'informatique. Oui. Alors après, évidemment, j'ai suivi une petite filière de m'occuper de groupes de techniciens. À un certain moment, est venu General Electric, plutôt avant RCA. RCA, c'était le premier partenaire américain de Bull. Alors là, j'ai compris que si je ne parlais pas anglais, je n'avais aucun avenir.
Oui.
J'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Et puis ensuite, j'ai demandé à mon patron si je pouvais pas aller aux États-Unis, quand même passer un certain temps. Donc il m'a en tout cas mis en relation avec l'organisme qui pouvait me proposer, non pas une bourse, mais une possibilité de travailler, un visa d'échange, qui se passe couramment dans les milieux de l'éducation. Donc j'avais un visa d'échange pour aller travailler au MIT, dans le centre de calcul. où j'ai appris l'anglais et la programmation.
Et vous revenez en France quand même après?
Oui, hein, ben évidemment, parce que j'avais vu les petits-enfants américains. J'en avais deux à l'époque. J'ai dit, je ne veux pas que les miens deviennent comme ça.
Bon, c'est pour ça que vous êtes revenu en France.
Voilà.
Vous avez eu peur. Donc on vous a récupéré, heureusement. Vous avez travaillé à Météo France, hein, c'est ça, la programmation de
j'avais gardé, avec Bull, j'avais gardé un contrat de longue durée. C'est-à-dire, il me payait la sécurité sociale.
Oui.
Donc je pouvais rentrer quand je voulais, en fait. Hein.
Oui.
Parce que c'est dur, utile, si on a un problème avec les États-Unis, de retomber à un endroit où on peut se récupérer assez vite, quoi. Oui, donc avec l'anglais et le temps partagé, le time-sharing, ben j'étais immédiatement un chien savant en Europe. Donc on me baladait un peu partout à faire des conférences.
Mm-hmm.
Au bout d'un an, j'en avais un peu assez. J'ai demandé est-ce qu'on me donne un projet. C'est là où j'ai eu la météo. C'était un projet qui était exactement fait pour moi parce que c'était sur une machine que personne ne connaissait, Control Data. Et puis, la météo n'avait jamais voulu prendre des ordinateurs du commerce parce que c'est pas ce qui n'était pas pratique pour leur météo. Il fallait des grosses puissances de calcul, il fallait faire des cartes en permanence. Donc, ils voulaient un système spécial. C'est tout exactement ce qu'il me fallait, quoi.
Oui.
Donc, j'ai fait le système au bout de 2 ans. Alors, à ce moment-là, il fallait continuer à faire quelque chose. Et j'ai eu une offre de Simca. Alors, je suis allé passer chez Simca, qui, un peu après, s'est appelé Chrysler France. Partout où je passais, il y avait des chambardements. Quoi.
Alors, comment vous arrivez au début, vraiment au balbutiement de l'Internet, hein, en France?
C'est purement une question de chance et tout. L'Internet est né aux environs de 1968. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, vous savez, à un certain moment, il y a General Electric qui s'était inséré dans le capital de Bull. Après, ça a été revendu à Honeywell, ainsi de suite. Et à un certain moment, il y a eu la politique de De Gaulle, c'était d'être indépendant parce que les Américains lui avaient refusé de lui livrer une machine contrôle data dont il avait besoin pour calculer la bombe française. Hein, bon. Alors ça, il n'était pas content. Donc il a dit on veut une industrie nationale. Donc on a créé la C2I à l'époque. En déshabillant en partie les techniciens et les managers de Bull. Et à ce moment-là, créer la délégation à l'informatique également. Donc, tout devenait beaucoup plus proche du pouvoir que ça ne l'avait été avant. Donc la délégation à l'informatique a envoyé une mission essentiellement de scientifiques pour aller voir qu'est-ce que c'était que cette ARPANET.
Oui, ça c'est les Américains.
Alors ils ont vu que ils sont revenus avec l'idée que c'était stratégique. Parce que c'est la première fois qu'on crée un réseau pour connecter des ordinateurs.
Voilà, ARPANET. Donc là, il faut bien retenir le nom, hein, parce que dans l'histoire de l'Internet, c'est quand même très important.
Oui,
donc vous repérez ça aux États-Unis, et le but, c'est quoi? C'est de les concurrencer en France,
hein? Alors, bien sûr, ils reviennent en France et ils disent c'est stratégique pour faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, parce que la C2I était une toute petite société, finalement, et il y avait déjà dans les plans de fabriquer un consortium européen avec Plessé en Angleterre, Philips en Hollande.
Mm-hmm.
Siemens en Allemagne et Olivetti en Italie. Alors tout ça, c'était quand même des grosses sociétés. Et ces deux-y n'auraient pas eu de pouvoir s'ils n'avaient rien eu de spécial. Donc on a dit, voilà, on va développer un réseau de type ARPANET en France, ce qui permet de donner une technologie réseau à la C2I, ce qui lui permet d'être autour d'une table avec quand même une certaine capacité de discussion.
Et là, c'est Cyclade.
Alors c'est Cyclade.
Ouais, voilà. C'est le concurrent donc, français, hein, d'ARPANET.
Concurrent français d'ARPANET, oui.
Et alors là, vous arrivez vraiment dans un domaine qui est en train d'émerger. Et on vous aide alors en France ou pas?
Ah ben, on m'a embauché à la délégation informatique d'abord.
Ouais.
On m'a débauché de Simca. Et donc je me suis installé à Liria, qui était à Rocancourt. Et puis en fait, je n'étais pas complètement vierge dans les histoires de réseau. Parce que quand j'étais à la météo, j'avais déjà développé des systèmes de communication pour faire circuler les données météorologiques. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment une nouveauté. Simplement, bon, à l'époque, il y avait très peu de documentation scientifique. On pouvait dire qu'en une semaine, on pouvait lire tout ce qui avait été écrit dans le monde sur les réseaux. Bon, donc, j'ai appris assez vite.
Et votre apport, alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau à l'époque? Parce que vous ne faites pas que copier ce que les Américains ont avancé.
La première chose que j'ai fait, c'est d'aller faire le tour des popotes aux États-Unis, voir ce qu'ils faisaient, discuter avec eux, etc. Bon, ils m'ont tout dit parce qu'ils n'imaginaient pas qu'on allait faire quelque chose comme ça, quoi. Et donc j'ai connu Larry Roberts, j'ai connu Len Klein Rock, ainsi de suite, quoi. Et revenu en France, ben, j'ai dit, ben, on ne va pas faire comme eux, parce que ce n'est pas efficace. Ensuite, il y a trop de contraintes. On ne pourra pas en France, par exemple, faire des modifications du matériel ordinateur. Ils sont tous loués à des compagnies, IBM en particulier. Ils ne permettront pas qu'on touche au matériel. Ça ne sert à rien d'ailleurs, il y a déjà tout ce qu'il faut pour entrer et sortir. Et le réseau ARPANET était fait pour être le seul au monde. Il était incompatible avec lui-même. Bon, il y avait tout un tas de contraintes inutiles. Alors j'ai dit, ben, on fait un truc beaucoup plus souple. Et donc, c'est ça qui était le design de Cyclades. C'est un réseau de réseaux avec des protocoles standards et puis essentiellement la capacité d'augmenter ça, de décentraliser toute la gestion et donc de permettre à tous les systèmes de toutes les marques de communiquer entre eux.
Donc, c'est ça. Et donc là, on est au milieu des années 70 et on arrive à mettre des ordinateurs en réseau les uns avec les autres dans des villes évidemment très différentes. Et ça, c'est très nouveau, évidemment.
Très nouveau, bien sûr. Ouais. Mais tout le monde pensait que ça n'aboutirait à rien. On dit, encore un projet, on va foutre l'argent en l'air.
Quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Jean-Marc Manac, Louis Pouzin, qu'on a ici dans ce studio, c'est quand même un sacré bonhomme, non ?
Il m'avait bluffé quand je l'avais interviewé il y a 2-3 ans. À un moment, j'étais dégoûté parce que j'avais coupé la caméra. Au moment où je lui ai posé la question, je lui ai demandé « Mais quand est-ce que tu as eu ta première connexion à Internet ?»
Ouais.
Et il m'avait répondu 73 ou 74. Je suis né en 71. Et premier fournisseur d'accès à Internet, c'est 91 en France. Et lui, en 73, 74, depuis chez lui, il se connectait déjà à des ordinateurs à distance.
Et c'était les ARPANET à l'époque, oui. Ouais.
Et en fait, l'apport de Louis par rapport à Internet, au-delà même de Cyclades, c'est la notion de datagramme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand sur Internet, donc on connecte des ordinateurs, les données circulent par paquets. Et donc, ce qu'avait commencé à faire ARPANET, c'est que tous les paquets transitaient par les mêmes câbles. Alors qu'avec la notion de datagramme, et Louis va me corriger si je me trompe, il y a des paquets qui peuvent passer par la droite, des paquets qui peuvent passer par la gauche, et qui se reconstituent sur l'ordinateur. Et c'est plus souple, et c'est réellement décentralisé. Et cette notion de datagramme, il en a parlé un jour à Vinton Cerf, et Vinton Cerf, qui est considéré comme le père de l'Internet, et ben il s'est servi de cette notion de datagramme pour développer TCP/IP, qui est le protocole de base d'Internet qui a permis l'essor d'Internet au-delà même d'ARPANET.
Et ça, les Américains l'ont fait, alors que les Français n'ont pas développé le projet.
Oui, ils étaient contre.
Ouais.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Français, là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, il a dit « Bon, les universitaires, vous êtes gentils, mais moi, je veux développer l'industrie française. Donc, Cyclades et les recherches universitaires, on arrête. On va développer France Télécom. » Et ça a donné le Minitel.
Voilà, c'est exactement ce qui
s'est
passé.
À l'époque, il était hors de question qu'on ne suive pas les directives ou le point de vue de France Télécom. Hein. Qui s'appelait d'ailleurs les PTT à l'époque.
Ouais, mais c'est quand même un gros loupé français. Voilà. Mais heureusement, vous êtes là et vous continuez, puisque vous êtes toujours très actif dans le domaine de l'Internet. On va en parler avec vous, en particulier sur les questions de sécurité et de nom de domaine. C'est le thème de notre Tête au Carré cet après-midi, avec les messages sur franceinter.fr.
Travel.
Mad About You avec Over Phonique à l'instant sur France Inter, dans la tête au carré, mes invités Louis Pouzin qui dès 1973 avait chez lui Internet, enfin c'était ARPANET à l'époque, hein, vous aviez une connexion, et puis Jean-Marc Manac qui est là également pour les questions de sécurité dont nous allons parler dans quelques instants. Donc nous il a fallu attendre quand même 1990 avant que n'arrive évidemment Internet dans les foyers.
Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, dont on parle beaucoup. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur.
Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure, l'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Pratique de l'anglais indispensable, cours d'initiation, tout à fait recommandé.
DIF, ça veut dire Graphic Interchange Format.
En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire.
Cette éclosion de printemps ressemble à celle du Minitel dans les années 80. Et si le succès est le même, nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées.
Voilà, c'est la préhistoire, mais c'était en 1990 et Louis Pouzin, donc vous avez eu 20 ans d'avance sur tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faisiez à l'époque sur Internet? Vous étiez tout seul? Vous pouviez envoyer des courriels à l'époque déjà ou pas?
Bien sûr.
Mais avec qui vous échangiez alors?
Déjà, d'une manière générale, c'était une quantité de chercheurs qui faisaient partie de différents groupes de travail. J'étais par exemple, à une époque président d'un groupe de l'IFIP, de Technical Communications. C'était le groupe TC6. Bon, on avait là-dedans une 20 à 30 spécialistes, si on peut dire, de réseau qui étaient de différents pays. Et ensuite, on avait des workshops. Donc, la majorité, évidemment, était plus anglo-saxon ou Europe du Nord. Enfin, j'avais en permanence une population de collègues avec qui je pouvais discuter.
Jean-Marc Manac, c'était les étudiants, hein, vraiment, les débuts d'Internet.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beaucoup raconté qu'Internet a été créé, enfin ARPANET a été créé pour résister à une attaque nucléaire. Sauf que c'est plus complexe que ça. Il a été démontré que c'est né sur la côte ouest des États-Unis et non pas sur la côte est des États-Unis, notamment du fait de l'influence des hippies, de la contre-culture et des gens qui prenaient le LSD. Et les premières personnes qui ont commencé à expérimenter et à filmer la première conférence, une des premières conférences qui parlait d'ARPANET et du devenir de la micro-informatique personnelle, a été filmée par un hippie qui prenait du LSD et où c'était s'ouvrir les connexions et neurones. Et que dans les années 70, c'était des chercheurs, c'était des universitaires, c'était des étudiants, et c'était donc aussi sur fond de contre-culture américaine, contre la guerre du Vietnam, le flower power, c'était toute une vague de contre-culture qui a aussi permis à ce qu'on décide, bah ouais, on va interconnecter tous ces réseaux et créer une sorte de supraconscience, comme ça, au-delà des cercles sociaux constitués.
Oui, donc on doit Internet au LSD, oui. Louis Pouzin, c'est ça en fait. Hein.
Il ne faut pas oublier que dans les années 70, les constructeurs d'informatique, notamment Bull et IBM, racontaient partout qu'il n'y avait aucun intérêt à interconnecter les ordinateurs. Ce qu'ils voulaient, c'était que tous les terminaux aient une interface commune de manière à ce qu'ils puissent ramasser, communiquer avec tous les terminaux du marché. Ouais.
Vous pressentiez l'ampleur du phénomène ou pas? 20 ans, 30 ans plus tard, pas à ce point-là? Vous n'imaginiez pas qu'on serait des milliards à se connecter?
Non, c'est-à-dire que
vraiment pas.
Ce qu'on savait déjà à l'époque, c'est qu'il fallait 10 ans pour faire une norme.
Ouais.
En se disant, ben, peut-être qu'un jour, théoriquement, on pourrait, par exemple, causer avec les Japonais, mais ça va prendre 20 ans, etc. Donc, on ne pensait pas que ce serait vraiment de notre génération.
Ouais. Vous restez stupéfait encore aujourd'hui par l'ampleur du phénomène ou pas?
Stupéfait, non, parce qu'on s'y habitue. Mais je serais passé des années 70 aux années 2000, là j'aurais été renversé.
Gérard nous dit sur franceinter.fr, merci de ne pas oublier de mentionner que le web a été inventé au CERN, donc par l'Europe scientifique.
Hein, un Britannique et un Belge.
Jean-Paul nous dit ceci, j'ai eu la chance d'être jeune et de faire mes études avant Internet, je peux donc comparer les époques et je ne peux qu'envier les jeunes générations. Plus besoin de lourds dictionnaires chronophages à consulter, plus besoin de limiter mon réseau aux seuls humains géographiquement proches. Tout est disponible sur simple clic. Certes, Internet est un nouveau média avec toute dérive possible. Il peut véhiculer le pire comme le meilleur, tout comme la géniale invention de Gutenberg a pu véhiculer aussi bien la Bible d'Hydro Hugo que Mein Kampf. Alors évidemment, on peut en faire tous les usages, hein. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi aujourd'hui, pour essayer de...
C'est comme les routes et le téléphone, ça sert à tout.
Le piratage, la sécurité informatique, est-ce que très vite justement, Louis Pouzin, dans le développement de l'Internet, on s'est préoccupé de ces questions alors? Jean-Marc Manac en parlait un petit peu tout à l'heure.
Non, mais... pas du tout. Pas du tout, on avait autre chose à faire.
Internet n'a pas été conçu comme un réseau sécurisé qui garantit la confidentialité. Et d'ailleurs, TCP/IP, les paquets, on sait qu'ils sont envoyés, mais on n'a pas de confirmation qu'ils sont bien arrivés à destination.
Ouais.
Donc ça n'a pas été conçu pour. C'est arrivé après, notamment avec le commerce électronique, notamment avec l'essor des emails qui ne sont jamais que des cartes postales. Et il y a des gens qui se sont dit, bah, une carte postale, ça peut être lu par n'importe qui. Donc il faut commencer à chiffrer les données. Le problème, c'est que dans les années 90, la cryptographie, le chiffrement, c'était considéré comme des armes de guerre, interdites à l'exportation. C'était réservé exclusivement à l'usage des militaires, des services de renseignement. Mmh. Donc c'était aussi un combat politique qu'ont mené des défenseurs des droits de l'homme aux États-Unis notamment et après dans le monde entier, la crypto-war, on l'appelait en 93, pour arriver à ce que les particuliers aient le droit à la confidentialité de leurs données sur Internet. Et c'est encore combattu aujourd'hui. Il y a une deuxième crypto-war qui a été lancée par David Cameron aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a quelques semaines, qui dit il faut interdire les logiciels de chiffrement. Pour les grands publics, parce que ça peut être utilisé par des terroristes.
Jacques nous dit sur franceinter.fr, 20 ans que le courrier électronique se fait pirater. Encore aujourd'hui, je reçois un message envoyé par mon adresse email à destination de moi-même avec pour objet avis de remboursement du gouvernement. C'est affligeant et inquiétant de voir les bases de notre société piratées. Mais ça, mmh. c'est tous les jours.
Tous les jours, oui. Oui.
Il y a des parades ou pas vraiment aujourd'hui?
Oh, pour ça, oui, parce que c'est tellement évident. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les habitudes de l'Internet et qui croient que c'est sérieux quand ils reçoivent ce genre de messages.
En tout cas, ces dernières semaines, on a assisté à une vague de piratage des sites français. Des pages d'accueil d'associations, de PME ont été remplacées par des messages menaçants. Je vous propose de réécouter Bernard Cazeneuve qui s'exprimait le 19 janvier dernier au micro d'Emmanuel Leclerc à propos des cyberattaques qui ont suivi les attentats de Paris.
Plus de 1300 attaques ont en effet été revendiquées par des équipes de hackers se revendiquant d'organisations islamistes ou saisissant l'opportunité de démontrer leur capacité malfaisante. L'implication forte des effectifs a notamment permis d'activer nuit et jour la plateforme Pharos, que je viens de visiter, et de mettre en place une veille Internet dédiée au soutien opérationnel. La plateforme elle-même, mise à mal, a ainsi traité en quelques jours plus de 25 000 signalements de contenus illicites sur le net. Mais de nombre et la variété des cybermenaces vont bien au-delà des phénomènes que nous avons dû traiter au cours de ces jours dramatiques. Je pense aux nouvelles formes d'attaques informatiques utilisées par les pirates, soit contre le réseau bancaire, soit contre les entreprises, soit contre les particuliers.
Voilà le ministre de l'Intérieur, donc Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces attaques récentes, Jean-Marc Manac? Est-ce qu'on peut parler de cyberguerre, là, ou pas, où on en est loin?
Absolument pas. Guillaume Poupard, qui est le responsable de l'ANSSI, qui est l'agence en charge de la sécurité et système d'information, a dit, mais attendez, c'est des tags sur des murs. Sauf que là, au lieu d'être sur des murs, c'est fait sur des sites web. C'est fait... Le modus operandi correspond à ce que font des jeunes pirates informatiques adolescents ou adolescents. Ce sont des tags. Il a dit que c'était un épiphénomène. On a Cazeneuve qui, effectivement, est monté au créneau, mais parce qu'il s'y connaît à peu près autant en sécurité informatique que moi, je m'y connais en finance internationale. Mm-hmm. Non, il n'y a pas du tout de cyberguerre. Il y a des gens qui sont énervés, et qui étaient énervés, d'ailleurs, je précise, ce n'est pas des djihadistes. C'était des musulmans qui étaient choqués par le « Je suis Charlie ». Donc ça, c'est pour les 27 000 sites web. Et d'ailleurs, sur les 25 000 sites web qui ont été tagués, qui ont eu leur page d'accueil piratée, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les logiciels n'étaient pas à jour. Et ça, c'est une base en sécurité informatique. Il faut constamment mettre les logiciels à jour. Si vous ne mettez pas le logiciel à jour, il y a des failles de sécurité. Et donc, les pirates en question, ils ont exploité des failles de sécurité. Donc, ce que ça révèle, c'est qu'il y avait 25 000 associations, entreprises, écoles, petits commerces français qui utilisaient des versions de logiciels qui n'étaient pas à jour. Donc, c'est aussi de leur responsabilité.
Louis Pouzin, épiphénomène aussi, selon vous, ce qui s'est passé là ces dernières semaines?
Oui, c'est presque normal. Hein.
Ça arrive tout le temps. C'est juste que là, il y a une attention médiatique, mais c'est pas...
Oui. Donc il faut vraiment se calmer par rapport à l'ampleur du phénomène.
Oui, c'est pas encore grave.
Oui. Est-ce que ça joue un rôle important selon vous justement l'internet, les réseaux sociaux dans l'apologie du terrorisme?
Alors j'ai fait une enquête sur le hashtag Je suis Kouachi parce qu'il y a énormément de médias qui ont relayé aussi cette soi-disant flambée de haine sur Twitter sur Je suis Kouachi. Et ce que j'ai découvert, c'est que ça a d'abord été lancé comme une blague par une Marocaine qui l'a retirée parce qu'elle s'est fait insulter par ceux qui la suivaient sur Twitter. Que le lendemain matin, ça a effectivement ont été repris par quelques gens qui soutiennent l'État islamique ou qui soutiennent les djihadistes. Ensuite, ça a été déclenché par des robots. Il faut savoir que des gens proches de l'État islamique programment des robots sur Twitter pour se faire passer pour des djihadistes et qui ont relayé ces messages. Et que en début d'après-midi, ça a été identifié par des gens d'extrême droite en disant « Regardez, c'est scandaleux, il y a des gens qui disent « Je suis Kouachi » sur Twitter. Mmh. » Et ensuite, c'était l'effet boule de neige de milliers de personnes qui ont dit « C'est scandaleux, il y a des gens qui disent « Je suis Kouachi ». Donc au final, c'est arrivé en trending topics, donc en tendance sur Twitter, non pas parce qu'il y a eu 37 000 messages qui proclamaient « Je suis Kouachi », mais parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de messages qui se scandalisaient, qu'il y a eu quelques centaines de personnes qui réellement disaient « Je suis Kouachi ». Et dans les centaines de personnes qui disaient « Je suis Kouachi », une bonne partie, c'était pas du tout des djihadistes, c'était des petits cons qui disaient ça pour choquer, pour déconner, c'était de l'humour noir.
Ouais.
Donc non, il n'y a pas une flambée de haine. Au contraire, ce qu'on a vu avec « Je suis Charlie », c'est des millions de messages en empathie avec les victimes des attentats et des millions de personnes qui se sont élevées en disant que le terrorisme, c'était scandaleux. Et c'était, j'étais sidéré de voir que dans les médias, il y avait beaucoup plus d'articles qui prêchaient la haine, alors qu'en fait, ce que je voyais, c'était des messages de paix.
Ouais, mais on se fait manipuler par les machines, alors, Louis Pouzin aussi, puisqu'elles sont capables d'envoyer des messages et de se faire passer donc, pour des internautes.
Elles ne font que ce qu'on leur dit de faire, les machines.
Ouais.
Alors, ce qu'il y a, c'est que les moyens de multiplication d'informations fausses sont beaucoup plus importants que du temps où il y avait que la fumée ou le téléphone.
Certes. Ouais. Et donc, le piratage, on n'y pensait pas du tout au tout début d'Internet.
On y pensait, mais au début, c'était plutôt une règle de la rigolade. C'était les blagues qu'on faisait à des collègues au début. On savait bien que c'était bourré de failles, mais ça ne paraissait pas un souci, parce que de toute façon, c'était un réseau expérimental à l'époque.
Ouais. Et quel regard vous portez alors aujourd'hui, justement, sur ces problèmes de sécurité? Ils sont sérieux?
Ben non, c'est que le réseau est toujours expérimental.
Ouais, et pourtant,
il a pas changé.
Il est utilisé. Donc c'est quoi? C'est un système un peu amateur
qui a
bénéficié d'une ampleur incroyable.
Il y a des millions d'applications qui ont été développées sur un système qui est absolument pas fiable.
Donc il a été surpassé?
Il a été surpassé. Je dirais que dans une certaine mesure, c'était une stratégie américaine, parce que si on avait refait les protocoles de base de l'Internet dans les années, au moins au plus tard dans les années 80, le problème se serait posé. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qui le fait? Etc. Et du même coup, on aurait cassé l'hégémonie de l'époque. Donc, c'était pas leur intérêt de faire ça. Leur intérêt, c'était d'aller au maximum, la vitesse maximum de diffusion de l'Internet partout où il y avait des volontaires pour s'en servir. Et puis, c'est resté comme ça.
Allez, deux courriels d'auditeurs. KV sur Twitter nous dit ceci. Enfin, on parle des fondements de l'Internet. Et à quand parlera-t-on de la science émergente, de l'Internet science? Louis Pouzin.
Ben oui, je connais bien Cavé.
C'est un copain à vous sur Twitter?
Oui.
C'est un grand scientifique.
Je sais que c'est un de ses soucis, c'est la science. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de science Internet. Il n'y a pas vraiment de science de l'informatique de réseau. Parce qu'il y a de la science informatique qui elle-même est une science. Par exemple, tous les problèmes de langage, c'est de la science. Mais les réseaux, ou même les systèmes d'exploitation, d'une manière générale, c'est de la pratique. On va dire c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat qui est évidemment traité avec beaucoup de sérieux lorsqu'on est une grande société.
Oui, pourtant, il y a une vraie science là-dessous. Hein. Il y a une vraie science, mais qui n'est pas enseignée encore.
Qui n'est pas enseignée parce qu'il faut d'abord la définir, cette science. On n'est pas une science, ce n'est pas une seule personne. Hein. Oui. Il faut quand même un corps de scientistes ou de savants qui sont d'accord sur un certain nombre de principes de base et qui sont capables d'en tirer des informations globalisantes. Parce que si dans une science, s'il n'y a pas de concepts qui permettent de traiter les problèmes d'une manière un peu macroscopique, ça n'apporte rien. C'est simplement de l'expérience. Donc pour que ce soit intéressant en tant que science, il faut qu'on puisse globaliser les concepts.
Ouais, mais tout a été tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps encore finalement de définir la science en elle-même. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion sur le piratage autour de l'Internet.
Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces. Les yeux noirs, les cheveux bruns, la bouche rose, les mains lisses, des yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges, c'est des filles. Les yeux bleus, les cheveux blonds, la bouche rouge, les mains douces, elles sont dangereuses, les filles. Allez les filles, c'est bien les filles.
Et c'est Power solo avec des filles. Voilà, Louis Pouzin, un des pères français de l'Internet avec nous cet après-midi. Jean-Marc Manac pour parler maintenant du piratage et des attaques avec les hackers en particulier. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un docu-fiction qui s'appelle American Blackout, qui a été diffusé sur National Geographic, où il est imaginé ce qui se passerait si les États-Unis étaient victimes d'un cyberterrorisme et subissaient une panne de courant générale.
On vient de passer le pont pour entrer dans Manhattan et tout d'un coup la lumière s'est éteinte dans la rame. Et maintenant on roule dans le noir, mais c'est tranquille.
Qu'est-ce qui se passe ?
On signale une énorme panne de courant. Toute la côte est des États-Unis est privée d'électricité. Bien. Si jamais on doit mourir, je veux filmer ça. Alors voilà, nous sommes coincés dans l'ascenseur des dortoirs. La fac est en vacances et nous sommes coincés, tous les quatre.
Aujourd'hui, des millions d'Américains sont sans électricité. Des milliers de gens sont coincés dans les métros et les ascenseurs. Le gouvernement demande aux gens vivant dans les zones touchées d'attendre les services d'urgence. Nous gardons l'antenne.
Tous les feux de signalisation sont éteints. Je croyais qu'ils avaient des batteries de secours en cas de panne. Le téléphone ne marche plus.
J'ai encore un peu de batterie.
Les opérateurs de téléphonie ne fonctionnent plus.
Tout s'est arrêté. Plus d'Internet. Plus d'ordinateur. Plus rien.
Nous n'avons pour l'instant aucune information sur les causes de cette panne, mais les autorités font mention de rumeurs concernant une cyberattaque.
Voilà, rassurez-vous, c'est un docu-fiction American Blackout qui fait sourire Jean-Marc Manac d'ailleurs et Louis Pouzin. Ça vous amuse beaucoup apparemment.
C'est n'importe quoi. C'est un terroriste, c'est plus simple de terroriser une population en massacrant des journalistes et des dessinateurs à Charlie Hebdo ou en égorgeant des gens et en mettant la vidéo sur YouTube que arriver à couper l'électricité sur toute une ville ou tout un territoire. Peut-être que ça existera un jour, mais ce sera le fait d'espions, enfin de services de renseignement, de militaires, pas de terroristes. Les terroristes, c'est pas comme ça qu'ils terrorisent la population. Ils ont pas le niveau technique, ils n'ont pas l'argent qui permettrait de développer tout ça. Et puis d'un point de vue objectif, en matière de terrorisme, oui, c'est être coincé dans l'ascenseur, c'est sans commune mesure avec le risque de se faire égorger. Enfin, je sais pas.
Louis Pouzin, il faut craindre quand même un big bug, une grosse attaque qui serait dévastatrice.
Je ne pense pas, parce que si on réfléchit à le niveau de coordination et d'organisation qu'il faut pour obtenir ce résultat, c'est pas croyable. Parce que d'abord, ça demanderait beaucoup de gens pendant un certain temps, il y aurait des fuites. La deuxième chose, c'est que le matériel et les logiciels ne marchent jamais aussi parfaitement qu'on le croit. Ça veut dire que quelque part, ça s'arrêterait de fonctionner. Oui. Alors il y a peut-être des morceaux qui seraient Il serait annihilé pour pendant un certain temps, mais pas la totalité. C'est pas très croyable, ça.
Jean-Marc Manac, les différents types d'attaques auxquelles on peut penser spontanément quand on est dans ce domaine de l'Internet.
Bah là, c'est très instructif depuis les révélations Snowden, parce que là, on voit ce que des gens qui ont énormément d'argent, énormément de capacités techniques, énormément d'êtres humains particulièrement brillants à la NSA sont capables de faire. Et donc là, il y a notamment un rapport de Kaspersky qui est sorti il y a deux jours sur une opération qui est attribuée à la NSA, qui serait le logiciel espion le plus sophistiqué qu'on ait jamais rencontré. Et où là, on voit qu'ils arrivent à infecter les firmwares, enfin la NSA arriverait à infecter les firmwares, à savoir, même si vous effacez votre ordinateur, vous réinstallez le système d'exploitation, vous avez tous les logiciels de sécurité, le virus est quand même réussi à rentrer dans l'ordinateur. Il y a aussi un modus operandi qui permet d'arriver à infecter le port USB pour faire de telle sorte qu'on infecte la clé USB. Ouais. Et ensuite, cette clé USB, quand elle arrive dans un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, le virus envoyé par la NSA depuis Internet arrive sur un ordinateur non connecté. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à infecté des centrifugeuses iraniennes il y a quelques années. C'était le virus Stuxnet qui a été la première attaque SCADA, c'est-à-dire une attaque qui vise des systèmes de contrôle de machines et non pas des ordinateurs au sens d'un accès à Internet pour se connecter sur le web, et où ils ont effectivement perturbé le fonctionnement de centrifugeuses. Mais il faut bien comprendre que des opérations comme ça, ça nécessite tellement d'argent et tellement de temps humain, de gens particulièrement brillants, c'est vraiment réservé à une élite. Et donc Israël, les États-Unis, éventuellement un peu la France, les grandes nations... Qui ont une grande pratique en matière d'Internet et d'informatique.
Ouais, mais vous avez l'air très optimiste, au fond. Vous ne craignez rien ? Il n'y a pas de faille, vraiment ?
C'est pas que je crains rien, c'est qu'en matière de services de renseignement et en matière de... les services de renseignement s'espionnent depuis des années. Pour autant, la France n'est pas en guerre avec les États-Unis, la France n'est pas en guerre avec la Grande-Bretagne ou avec l'Allemagne. Donc ils s'espionnent, mais ils ne font pas de dégâts, ils ne font pas de morts et on n'est pas en guerre.
Louis Pouzin, ce courrier de Nicolas. Que pensez-vous des évolutions de l'Internet dans le sens du web sémantique et de l'Internet des objets ?
Alors ça, c'est encore assez largement de la science-fiction, pas au sens propre du terme, en sens qu'il y a effectivement beaucoup plus d'objets connectés maintenant que d'humains connectés. Mm-hmm. Mais après tout, c'est, on pourrait dire, l'Internet des claviers, l'Internet des écrans, l'Internet des
téléphones.
Des téléphones, l'Internet des WC, l'Internet des bouilloires, enfin, n'importe quoi. On peut dire ça. À mon avis, ça, c'est intéressant techniquement parce que ça permet de faciliter pas mal de choses ou d'automatiser pas mal de choses, mais d'un autre côté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt conceptuel. L'intérêt conceptuel, c'est quand on aura des objets virtuels, parce qu'on pourra les imaginer comme on veut, donc d'en inventer autant qu'on veut, et de fait, de faire des espèces de robots qui n'ont pas besoin d'exister physiquement.
Jean-Marc Manac, sur l'Internet des objets, là aussi, il y a quand même des failles dans ce domaine.
Le problème de l'Internet des objets, c'est que quand un ordinateur est contaminé par un virus, c'est juste un clavier, un ordinateur avec des données sur un disque dur. Quand ça commence à être une voiture, vu qu'on parle de connecter les voitures, voilà, c'est là où...
Ou des pacemakers.
Alors, ils ne sont pas connectés directement à Internet, mais c'est de l'informatique. Effectivement, on a déjà désactivé un pacemaker à distance. Ouais. Donc c'est là où, effectivement, il faut faire attention. Il y a de plus en plus d'articles dans la presse là-dessus. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va être mieux sur cette soi-disant Internet des objets que ça ne l'a été dans les systèmes d'exploitation. Quand je parlais de Microsoft tout à l'heure, c'est que réellement Microsoft, qui était leader mondial des systèmes d'exploitation, a attendu le début des années 2000 pour réellement s'intéresser à la sécurité informatique, alors que ça faisait près de 10-15 ans que les gens avaient des ordinateurs dans leur maison et que les virus contaminaient ces ordinateurs.
Louis Pouzin, vous êtes à l'origine d'Open Route. C'est une solution alternative pour justement révolutionner la gouvernance de l'Internet et, les noms de domaines en particulier. Vous nous expliquez ça en quelques secondes.
Ben actuellement, tous les noms de domaines sont sous la coupe d'une société américaine qui s'appelle ICANN. Les gens bien disent ICANN.
Hein. Yeah. Bon. Okay.
Et à part ça, c'est non seulement un monopole, mais c'est aussi un racket. Hein, en sens que le coût qu'ils font payer à leur service est complètement démesuré par rapport à ce qui est nécessaire. Et par ailleurs, ils mettent en place des règles d'installation de ces noms de domaine qui exclut pratiquement les petites sociétés maintenant. Donc c'est une forme comme une autre de donner la priorité aux sociétés américaines.
Et donc vous proposez qu'on puisse créer son
Alors,
propre nom de domaine ?
Qu'on puisse s'écarter de l'ICANN, c'est-à-dire mettre des noms de domaine en place, techniquement c'est enfantin, c'est-à-dire que n'importe quel bon technicien peut le faire. C'est pas la question. La question c'est, est-ce que ça sera utilisé ? Alors aujourd'hui, la plupart des gens de par le monde n'imaginent pas qu'il y ait une alternative à l'ICANN parce qu'on leur a toujours dit depuis le départ que c'était comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un dogme qui n'a aucune base ni légitime, ni juridique, ni technique. Alors en fait, depuis, avant que l'ICANN existe, il y avait déjà des annuaires indépendants. C'est un annuaire l'ICANN, c'est tout. Bon, il y avait déjà des annuaires indépendants à partir de 1995. Donc techniquement, ce n'est pas nouveau.
C'est quoi votre nom de domaine à vous alors?
C'est Open Root.
Open Root, oui. Voilà. Et donc on peut chacun en avoir un?
Oui.
Hein, bien sûr. Ça se crée.
Oui.
Voilà. Et c'est une façon de s'émanciper aussi, là encore, de l'hégémonie américaine.
Ce que nous avons, mettons en place, c'est quelque chose qui était techniquement déjà en place depuis très longtemps. Mm-hmm. Simplement, on en fait un usage un petit peu différent, parce qu'on vend les noms, on ne les loue pas. La base du monopole de l'ICANN, c'est de créer la rareté de manière à louer les noms chers. Ouais. Hein.
Donc, Jean-Marc Manac, voilà. C'est important de travailler sur ce type de projet ?
C'est très important et c'est vrai que Louis, on en reparlait tout à l'heure, il a encore été censuré à un sommet mondial de l'Internet l'année dernière. Il a une épine dans le pied, ouais, de ceux qui essayent comme ça de centraliser Internet. Lui, il essaye de le décentraliser. Et c'est clair qu'en matière notamment de sécurité informatique, la décentralisation, c'est une partie de la solution.
Et à 83 ans, vous n'avez pas dit votre dernier mot, Louis Pouzin. Merci beaucoup infiniment d'être venu aujourd'hui parce que vous êtes une figure historique de l'Internet. Vous êtes français, on était ravis de vous accueillir aujourd'hui dans La Tête au Carré. Merci également Jean-Marc Manac.